Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il accumulait les procédures, 4 plaintes et signalements déposés contre lui. Le profil plus qu'inquiétant du principal suspect dans la disparition de Liana dans le Gers. Israël et le Liban qui s'accordent à Washington sur un cessez-le-feu soumis à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah. Et Victor Wembanyama, déçu de sa prestation avec les Spurs de San Antonio cette nuit, battu par les Knicks de New York, premier match de la finale NBA.
Jérôme B., principal suspect dans la disparition de Liana, visé par une nouvelle plainte.
Déposée hier matin pour viol sur une jeune mineure de 11 ans, elle dit avoir été agressée l'été dernier lors d'une soirée pyjama au domicile de ce père de famille de 41 ans. Il a été mis en examen, écroué dans l'enquête sur la disparition de la jeune collégienne de 11 ans. Déjà visée par d'autres plaintes, la première en 2017, une autre en 2022, classée sans suite. La dernière a été déposée en août 2025, là aussi pour des faits de viol sur une enfant de 10 ans. Le suspect avait rencontré la jeune fille dans un club de sport. Pierre Bourgès et Bérangère Bocquillon ont pu échanger avec son dirigeant. C'est un témoignage RMC.
Le suspect a fréquenté son club l'année dernière avec ses deux filles. Et très vite, ce professeur de sport remarque qu'il s'attache à une élève du club.
Globalement, les enfants l'aimaient beaucoup. Et cette petite fille, en fait, ils ont lié des liens d'amitié, y compris avec la maman. Ils ont commencé à se voir à l'extérieur.
C'est cette maman qui a porté plainte en août dernier contre Jérôme B. pour le viol de sa fille. Pourtant, le dirigeant du club de sport l'a eu à l'œil dès son arrivée au club.
Très vite, on a repéré qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il était tout le temps avec les enfants. Les entraînements, il se mettait jamais avec les adultes. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui me paraissait bizarre et on surveillait.
Mais il ne l'a jamais exclu de son club de sport.
Jamais de geste déplacé, on n'a jamais vu une main aux fesses, jamais de ci, ça. On s'est dit, bon voilà, c'est quelqu'un qui est proche des enfants, etc. C'est vrai qu'on essaye de ne pas voir le mal partout.
Il n'a appris qu'avant-hier la plainte de cette maman d'une de ses élèves contre Jérôme B. Il est aujourd'hui rongé par la culpabilité.
J'aurais dû intervenir, j'aurais dû prévenir la maman, j'aurais dû... J'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il faut pour protéger une élève. C'est mon plus gros regret. C'est mon plus gros regret.
Et le gouvernement s'empare de cette affaire, annonce l'ouverture d'une enquête administrative sur d'éventuels dysfonctionnements.
Éventuels dysfonctionnements dont on parlera à 7h40 avec l'avocat de l'association Innocence en danger. Il est très en colère sur ces dysfonctionnements et le manque de réactivité de la justice après les plaintes et les signalements qui visaient Jérôme B. Et puis à 8h30, ne manquez pas Dominique Rizet, le chroniqueur police-justice. Où en est l'enquête? Je vous rappelle que Liana, elle est toujours introuvable.
3 hommes, toujours en garde à vue ce matin, des agents de l'Office national des forêts entendus depuis près de 48 heures, suspectés de négligence à l'origine du méga-feu dans le massif des Corbières qui avait ravagé 11 000 hectares de forêt l'an dernier dans l'Aude. Et pour lutter contre les incendies, dans le cadre du plan anti-incendie de cet été, le gouvernement annonce la commande de 2 nouveaux Canadair portant à 16 le nombre d'appareils bombardiers d'eau en France. C'est l'information de la nuit. Après d'intenses combats ces derniers jours, Libanais et Israéliens se sont accordés sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, déclaration commune des deux pays, Amélie Courtet, après 2 jours de tractation à Washington.
Un cessez-le-feu conditionné d'abord à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et au retrait de tous leurs combattants du secteur au sud de la rivière Litanie, près de la frontière israélienne. Sous l'égide des États-Unis, le Liban et Israël se sont également accordés pour créer des zones pilotes dans lesquelles l'armée libanaise exercerait un contrôle exclusif du territoire. Toutes ces mesures doivent permettre à terme d'avancer vers un accord global de paix et de sécurité, indique encore leur déclaration commune. Les deux pays ont notamment convenu de participer à une nouvelle session de pourparlers la semaine du 22 juin. Plus tôt dans la soirée, le président des États-Unis, Donald Trump, insistait pour dissocier les discussions de paix sur le Liban et celles sur l'Iran, alors que Téhéran affirme qu'il s'agit d'un seul et même sujet.
Et dans ce contexte, les Français s'adaptent à la crise de l'énergie. Avec une conséquence, la baisse de la consommation des carburants, elle se poursuit en mai, moins 12% par rapport à l'an dernier. Cela représente un manque à gagner de 40 millions d'euros dans les caisses de l'État. Une première victoire pour les écologistes. Leur proposition de loi visant à limiter l'exposition des Français au cadmium a été votée hier soir à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement et à l'issue de débats plus qu'animés. Cyprien Pézril.
Pour les uns, un pas de plus dans la lutte contre un poison cancérogène. Pour les autres, c'est une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Ici, le député RN, Eddy Casterman.
Voilà que l'agriculture française est à nouveau traînée devant le tribunal de la décroissance. Accusez agriculteurs, levez-vous.
Réponse de l'écologiste Clémentine Autain.
Quelques intérêts privés ne peuvent pas être supérieurs à l'intérêt général, à la santé publique.
Elle l'assure, il est facile et peu coûteux de réduire la présence de cadmium.
Environ 2 euros par hectare. Non, cela ne mettra pas en danger nos agriculteurs. Ça, c'est un mythe.
Aujourd'hui, la France est le pays d'Europe le plus exposé à ce métal lourd. Le texte vise à réduire les seuils autorisés étape par étape jusqu'en 2030. Trajectoire trop ambitieuse, déplore le gouvernement. Qu'importe, il doit respecter le vote, prévient le rapporteur Benoît Biteau.
Le problème, c'est qu'avec ce gouvernement, on est habitué à ce que les votes ne soient pas traduits en décret de loi. Donc là, maintenant, le combat, c'est de demander au gouvernement de traduire ce vote en texte réglementaire.
Et pour l'instant, le gouvernement ne dit pas s'il entend ou non suivre la trajectoire votée.
C'est un peu la Coupe du Monde qui débute ce soir sur RMC, 21h10, France-Côte d'Ivoire à Nantes. Premier match de préparation pour les Bleus à une semaine tout juste du début de la Coupe du Monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Un mondial sur fond de tensions géopolitiques mais aussi intérieures avec les polémiques en début d'année autour de la police de l'immigration, l'ICE, que redoutent certains supporters. Reportage au Texas de notre envoyé spécial sur place, Martin Bourdin.
Loin des regards, à 300 mètres de la route, le centre de détention de Deal et plusieurs dizaines de personnes, notamment des enfants soupçonnés d'être en situation irrégulière aux États-Unis, sont détenus dans ces bâtiments blancs, arrêtés par la police de l'immigration, police qui sera déployée pendant la Coupe du Monde pour assurer la sécurité autour des stades et des fan zones notamment. Alors Jean-Pierre, d'origine haïtienne, ne prendra aucun risque.
Je vais regarder les matchs à l'intérieur chez moi, j'ai peur de ICE, ils peuvent venir te chercher chez toi.
Cette peur, Patricia la ressent aussi, même si elle a la nationalité américaine.
Je suis toujours en train de regarder par-dessus l'épaule. Une de mes amies a retiré ses enfants de l'école pour leur faire cours à la maison parce qu'il y avait eu un raid de ICE dans l'école. Si on va à la fan zone, on va peut-être se faire arrêter.
En janvier, des agents ICE ont tué 2 personnes à Minneapolis dans le nord du pays. Depuis, l'institution fait moins parler d'elle. Mais rien ne s'est jamais vraiment calmé, regrette Laura Perez Boston, qui gère une association d'aide aux migrants au Texas.
Il faut qu'on voit que les détenus dans ces centres n'ont pas accès à l'eau potable et à la nourriture. Les droits de l'homme sont bafoués, ça c'est tous les jours. Mais comme ce n'est pas dans la rue, on n'en parle pas et on ne le voit pas.
En avril, 60 000 personnes étaient encore détenues dans l'un des 220 centres du pays.
On reste au Texas, où jouait cette nuit le premier acte de la finale NBA. Déception pour les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, battu chez eux face aux Knicks de New York, 105-95. Alex Biggerstaff nous rejoint ce matin. Vous avez suivi ce premier match pour RMC. Alexandre, le Français n'a pas été étincelant sur le parquet cette nuit, déçu lui-même de sa prestation.
Oui, en conférence de presse après match, Victor Wembanyama est lucide.
I was bad tonight. It's not more complicated than that.
J'ai été mauvais, ce n'est pas plus compliqué que cela, déclare Wemby en manque d'adresse en attaque malgré ses 26 points et 12 rebonds. Pour ses premiers pas en finale NBA, le Français est tombé sur une défense redoutable. Épuisé, il a même perdu 6 ballons dont un crucial dans la dernière minute de jeu. En finale NBA, la première équipe à 4 victoires remporte le titre. Le match 2 se jouera une nouvelle fois à San Antonio dans moins de 48 heures, dans la nuit de vendredi à samedi. Et il faudra impérativement l'emporter pour ne pas s'envoler à New York dans une position très inconfortable. Les Knicks, en pleine confiance, sont désormais sur une série de 12 victoires consécutives dans ces playoffs et viennent donc de reprendre l'avantage du terrain.
Alexandre Biggerstaff pour RMC. Puis ça bouge sur les bancs de Ligue 1 après une saison dans le Nord et une Coupe de France Pierre Sage est sur le départ à Lens. Bruno Genesio, lui, est attendu du côté de Marseille quelques semaines seulement après son départ de Lille.
C'était le journal de Thibaut Texer.